discuter des doctrines et même à se diviser. Même ils disent, ah, je m'excuse, mais je ne peux plus me rassembler avec vous. Parce que vous ne pouvez plus vous rassembler avec moi. Parce que vous ne voyez pas les choses de la façon que moi je vois les choses. Alors moi, je vais créer ma propre église. N'est-ce pas? Et vous êtes libre de créer votre propre église. Et tous les deux, n'est-ce pas? Ils lisent la parole. Et même ils se débattent selon la parole. N'est-ce pas? Donc un frère va lire un verset et un autre frère va lire un autre verset pour se contester. N'est-ce pas? Et éventuellement, ils se séparent. Et ils disent qu'ils connaissent la parole. Ben oui, ils connaissent la parole mentalement. Mais leur vie n'a pas changé. Alors, pourquoi se fait-il que tant de croyants, nous y compris, hein, peuvent aller à la messe le dimanche matin, fidèlement, régulièrement, n'est-ce pas ? Toute leur vie, en écoutant la parole, même en lisant la parole, mais pendant la semaine, ils vivent leur vie selon leur propre manière. Hein? Ils couchent avec, n'est-ce pas, avec d'autres. Ils sont mariés, mais ils couchent avec d'autres femmes. Ah. Mais ils viennent à l'église, à la messe ce dimanche, et ils écoutent la parole. Et même, ils connaissent quelques versets. Ah. Mais à la maison, ils maltraitent leurs femmes. Hein. À la maison, ils maltraitent leurs enfants. À la maison, ils s'enivrent. Et ils mènent une vie qui est totalement différente, n'est-ce pas, de la vie qu'ils professent le dimanche matin. Pourquoi? Parce que la parole, on peut dire qu'une raison, c'est qu'ils n'ont jamais connu la parole. Ils n'ont jamais touché la parole. Ils n'ont jamais touché Dieu dans la parole. Ah, la parole n'est jamais devenue nourriture et breuvage pour les changer. Ah, donc, ça c'est un peu le fardeau aujourd'hui. Ah, comment venir à la parole, quand nous venons à la parole, comment est-ce que nous pouvons toucher le Seigneur dans la parole, dans la Bible? Parce que quand nous venons à la Bible, nous devons savoir que nous venons au Seigneur lui-même. Hein? La Bible n'est pas un document qui nous parle du Seigneur. C'est pas seulement un document, c'est pas seulement un archive, ce n'est pas seulement un manuel qui nous décrit Dieu. Mais la parole, c'est Dieu lui-même.
Amen.
Quand je viens à la Bible, je viens au Seigneur. Si aujourd'hui, nous pouvons même nous souvenir de ça, uniquement de ça. Quand je viens à la Bible, je viens au Seigneur lui-même. Hein? Quand je viens à la Bible, je peux toucher le Seigneur dans la Bible. Parce que la Bible... Hein, la Bible est le souffle de Dieu lui-même. Ok, donc nous allons lire quelques versets. Ah, de Timothée, chapitre 3. Chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Un frère peut le lire ou une sœur. Amen. 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 Ok. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce mot inspiré peut aussi dire, qui veut dire vraiment, même le cantique que nous avons chanté, j'inspire, Seigneur, ça veut dire que je respire. Hein? Et Dieu, quand Dieu nous a donné la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré. Il a inspiré, il a respiré. Il a soufflé quelque chose. Et ça, c'est sa parole. Vous voyez, les paroles que nous lisons dans la Bible ne sont pas seulement des paroles en noir et en blanc, mais c'est le souffle de Dieu lui-même. Mais pour que nous puissions toucher le souffle de Dieu, il faut que le noir et le blanc, ce que nous lisons, deviennent souffle en nous. Vous voyez? Et pour ça, il faut que nous utilisions notre esprit, qui est, n'est-ce pas, notre esprit, la partie que Dieu a créée en nous, pour contacter, pour toucher l'esprit ou le souffle de Dieu dans la Bible. C'est comme ça que il y a un feu qui s'allume, n'est-ce pas? C'est comme une allumette. Si vous voulez allumer un feu, il faut des allumettes. Mais il faut aussi quoi? La boîte d'allumettes. Mais tous les deux, les allumettes et la boîte d'allumettes doivent avoir quelque chose de commun. Et ça, c'est la phosphore, n'est-ce pas? La partie là, n'est-ce pas? Au bout de l'allumette et sur la surface de la boîte à allumettes, il faut que les deux, n'est-ce pas? Il faut que l'allumette frappe le phosphore sur l'allumette, il faut que ça frappe le phosphore sur la boîte. À ce moment-là, il y aura un feu. Sinon, les deux seront séparés. Et ça, ça peut nous arriver. Hein. Nous pouvons venir à la Bible, nous, moi, homme, la Bible, n'est-ce pas, des mots en noir et en blanc, et je peux les lire, mais il se peut que je ne frappe jamais l'esprit dans la Bible. Donc, tout ce que je lis, soit ça devient doctrine, connaissance, qui ne me change pas. N'est-ce pas? Donc, je peux même lire. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Hein? Je peux lire ce verset. La Bible, qui dit que la Bible peut instruire dans la justice. Et après avoir lu ce verset, je peux sortir de la réunion et je peux tricher quelqu'un. Si je suis vendeur, n'est-ce pas? Je suis vendeur, on vient acheter quelque chose, le prix d'un certain article, je peux le augmenter. Parce que je veux gagner un peu plus d'argent, n'est-ce pas? Et je peux tricher les autres après avoir lu ce verset. Mais le verset dit que la Bible, les Écritures sont bons, n'est-ce pas? Sont utiles pour instruire dans la justice. Mais je peux aller tout de suite après et vivre dans l'injustice. Et ça ne me fait aucun... Je n'ai pas de regard. Ça va, je suis parfaitement content. Ah, moi, j'ai gagné quelque chose. Quelqu'un d'autre a perdu. Et je suis tellement content. Ben oui. Il y a même des gens, n'est-ce pas, pendant des réunions d'évangile, n'est-ce pas, qui écoutent l'évangile, la parole de Dieu, et en même temps, ils piquent les portefeuilles des autres. Parce que c'est vraiment, c'est un bon lieu de faire ça, n'est-ce pas? Peut-être le meilleur. Ah oui, c'est le meilleur endroit de piquer les portefeuilles des autres. Parce que... oui, on est là, et surtout, n'est-ce pas, des croyants qui sont simples, qui sont purs, et, n'est-ce pas, ils ne sont pas là avec la main sur la poche. Donc, hein, ceux qui piquent les portefeuilles, ils ont... et tout en écoutant la parole, ben, il y a le prédicateur qui prêche, et il y a même la parole qui est lue, la Bible, et ils mènent leur vie. Pourquoi? Parce que, non, on ne peut pas leur reprocher, parce que ça c'est aussi nous, n'est-ce pas? Ça c'est moi aussi, hein? Parce que ils n'ont jamais frappé la parole avec leur esprit. Ils n'ont jamais frappé Dieu, touché, je m'excuse, ils n'ont jamais touché Dieu avec Dieu. Vous voyez? Comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu? Qui peut connaître Dieu? C'est Dieu qui connaît Dieu. Donc, c'est la partie de Dieu qui est en nous, qui doit toucher Dieu lui-même. Quand l'homme, dans son naturel, n'est-ce pas, charnel, naturel, essaie de toucher Dieu, ce qui va se passer, c'est que il va savoir quelque chose, mais il va vivre de la même façon. Aucun changement. Aucun changement. Vous voyez? Donc, comment est-ce que nous pouvons toucher Dieu dans la parole? Nous devons exercer, nous devons ranimer la partie de Dieu qui est en nous, qui est cachée, voilée, enterrée en nous. Et ça, c'est notre esprit humain. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens le négligent. Ils ne le savent même pas que ça existe. Parce qu'ils ne l'ont jamais ou presque jamais utilisé. Alors, ils l'ignorent. Mais une fois qu'ils touchent l'esprit, ils exercent leur esprit, ils goûtent un peu de Dieu. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un invoque le nom du Seigneur, ô Seigneur Jésus, il exerce son esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui est allumé. N'est-ce pas? Et ça, c'est la partie créée par Dieu, qui s'appelle notre esprit humain. L'homme est créé en trois parties. N'est-ce pas? Il est composé de trois parties. L'esprit, qui est la partie intérieure, la partie qu'on ne voit pas, l'âme, que nous connaissons très très bien, c'est notre personnalité. C'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous distingue, et notre corps. Hein? Aussi une partie que nous connaissons très très bien. L'âme et le corps sont les deux parties que nous nous connaissons parce que nous vivons. 99% de notre temps, nous vivons notre vie selon notre âme et notre corps. Ouais. Parce que nous sommes des êtres humains sur la terre. Et donc, nous exerçons notre volonté, nous exerçons nos choix, nous exerçons nos émotions, hein? Nous exerçons nos pensées, nous pensons, nous réfléchissons, nous planifions, hein? Nous, soit de faire du bien, soit de faire du mal, ça c'est l'âme, hein? Mais l'esprit, nous l'ignorons. Parce que l'esprit est caché, l'esprit est enterré, hein, et il est caché dans notre âme. Quand Dieu a soufflé, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que l'esprit était censé être la source, la partie principale de l'homme. Mais la partie qui domine l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'était le dessein de Dieu. Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, le résultat du souffle de Dieu était une âme. Une âme pour exprimer ce que Dieu a soufflé en l'homme. Vous voyez? Mais ce que nous voyons, c'est l'âme, pas l'esprit. Mais l'esprit est là. C'est la source, c'est là. C'est l'origine. C'est l'existence même de l'âme. Mais le problème, c'est que quand l'homme a chuté, l'homme a perdu Dieu, s'est éloigné de Dieu, il a perdu la fonction de son esprit. Son esprit est devenu mort, n'est-ce pas? Désensibilisé. Ça veut dire que il ne pouvait plus reconnaître Dieu. Et au lieu que l'esprit de l'homme, n'est-ce pas, soit la motivation, la raison de l'existence de l'âme de l'homme. Maintenant, c'est l'âme de l'homme qui devient le moteur, qui devient, n'est-ce pas, même le conducteur, hein, la force dominatrice de la vie de l'homme. Donc, chaque homme, chaque femme, sans Dieu, vit sa vie dans l'âme. Il fait ce qu'il veut faire. Et il, n'est-ce pas, Dieu, ah, il n'a rien à voir avec Dieu. Parce que il ne connaît pas son esprit. Vous voyez? Il y a des moments où l'homme va réfléchir deux fois avant de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que la conscience, qui est une fonction de notre esprit, quand l'homme a chuté, son esprit est devenu mort. Ça veut dire que sa sensibilité envers Dieu a été coupée. Mais la conscience, la fonction, une fonction de l'esprit, la conscience a été activée. N'est-ce pas? Et donc, même celui qui va tricher, hein, qui va tricher son client, hein, peut-être qu'il va réfléchir deux fois. Il sait que ce qu'il fait est mauvais. Bon, et voilà, c'est une bataille, un combat. N'est-ce pas? Sa conscience lui dit que ce que tu vas faire n'est pas juste. Ça, c'est son esprit. Mais son âme, n'est-ce pas, lui dit que il faut le faire, parce que si toi tu ne le fais pas, Hein? Tu n'auras pas suffisamment, n'est-ce pas, d'argent pour vivre. Et donc, il se justifie, il va se justifier. Ça, c'est l'âme. La conscience ne raisonne pas. La conscience est comme un feu rouge. Quand vous voulez, n'est-ce pas, dans la rue, vous arrivez à un feu rouge. Le feu rouge ne raisonne pas. Le feu rouge reste rouge. N'est-ce pas? Il est rouge jusqu'à ce qu'il change en vert. Ça, c'est l'esprit. Mais nous raisonnons. Si j'attends, n'est-ce pas, ce feu, que le feu soit change en vert, hein, je vais être en retard. Hein? Ou bien, j'ai déjà attendu. Il semble que chaque fois que je roule, n'est-ce pas, j'arrive toujours à des feux rouges. Alors, cette fois-ci, je vais me permettre, n'est-ce pas, de brûler le feu rouge. Ou bien, il n'y a pas de voiture qui vient, n'est-ce pas, qui passe. Alors, je regarde à droite, à gauche, je regarde à droite, hein, comme Moïse. Il n'y a personne. Et puis, je passe, je traverse. Ça, c'est l'âme. Les raisonnements. Mais il n'y a personne. Et il n'y a pas de policier. Il n'y a pas de caméra, n'est-ce pas, pour prendre une photo de ce que j'ai fait. Alors pourquoi? Donc, je n'ai blessé personne. Je n'ai blessé personne, n'est-ce pas? Mais le feu rouge est toujours là. Vous voyez? Et ça, c'est l'esprit. Hein? Donc, ça c'est l'homme, ça c'est nous, n'est-ce pas? Nous vivons 99% de notre vie dans notre âme. Ah, mais il y a un moment où notre esprit est activé. Notre esprit est touché. Cette partie, c'est comme un vieux piano. Un piano, n'est-ce pas, où les clés n'ont pas été... on n'a pas touché les clés depuis longtemps. Mais tout d'un coup, quelqu'un vient, n'est-ce pas, il arrive au piano, il commence à jouer, à appuyer sur les clés. Et on se rend compte que il y a de la musique qui sort de ce vieux piano, n'est-ce pas? Peut-être pas très... N'est-ce pas? Ça ne semble pas très, très bien. Il faut que le piano soit quoi? Soit... nettoyé. Oui, mais il y a autre mot. Accordé, c'est ça, oui. Il faut que le piano soit accordé. Mais les notes sont là. Il y a quelque chose qui sort. Ça, c'est Dieu. Quand nous touchons Dieu pour la première fois, il y a quelque chose qui sort de nous. Notre esprit touche l'esprit de Dieu. Dieu lui-même. Esprit touche esprit. Ah. Et ça, c'est le début de notre vie chrétienne. Alors peut-être que, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, à un certain moment, vous avez, votre vie chrétienne a commencé. Hein? Parce que, pourquoi? Parce que vous avez, votre esprit a touché Dieu lui-même. Mais le problème c'est que ça s'arrête facilement. Il y a des gens qui ont touché Dieu une fois dans leur vie. Et c'est fini. Parce que, pourquoi? Parce que ils ne savent pas exercer leur esprit. Ils ne savent pas venir à Dieu pour toucher Dieu. Et donc, la vie chrétienne, comme nous l'avons vu un peu ces derniers jours, la vie chrétienne n'est pas une vie dans l'air. Ce n'est pas une vie magique. Elle demande de l'exercice. Elle demande une discipline. Elle demande que nous soyons disciplinés. Ah. Ça. Vous voyez, c'est curieux comment nous, les hommes, n'est-ce pas, quand nous venons aux choses spirituelles, nous sommes très très superstitieux. Nous nous attendons à ce que les choses arrivent miraculeusement. Mais dans la vie humaine, nous sommes, pour la plupart, nous sommes diligents. Hein? Nous faisons attention à notre vie humaine. Nous savons très très bien que si nous ne nous réveillons pas à une certaine heure pour aller au travail, le lendemain, nous risquons de ne plus avoir de travail. Mais ça c'est, n'est-ce pas, c'est, nous sommes très très conscients de cela. Mais dans la vie chrétienne, nous n'avons pas du tout cette conscience. Nous nous attendons que à quelque chose de miraculeux, que d'une certaine façon, je deviendrai quelqu'un qui va suivre Dieu, qui va connaître Dieu, qui va plaire à Dieu, sans aller par le processus, sans nous donner à l'exercice de connaître Dieu. Dieu va, il va spontanément venir résoudre tous mes problèmes. Et voilà pourquoi il y a tant de croyants, hein, ou tant de prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité. Ah, ah, croyez en Dieu et Dieu vous bénira. Vous serez béni. N'est-ce pas? Vous serez béni. Vous aurez une meilleure vie. Mais même là, il y a des quoi? Il y a des conditions. Ce prédicateur ne va, il va pas vous laisser aller. Oui, il vous promet une meilleure vie. Mais il y a des conditions, n'est-ce pas? Il y a... Oui, des sacrifices, n'est-ce pas? De votre part. Donc, même là, il y a un certain exercice, il pourrait dire. Oh, n'est-ce pas? En fin de compte, ah, il y a tout... il y a quelque chose, n'est-ce pas, de sacrifice qui est impliqué. Dans la vie chrétienne, hein, nous obtiendrons ce que nous sèmerons. Ce que nous semons, c'est justement ça que nous récolterons. Oh, voyez, donc il n'y a pas de raccourci dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de de remède instantané, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'élixir, n'est-ce pas, cette potion, élixir magique. Hein? Il n'y a pas de Graal sacré. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Si vous buvez, n'est-ce pas, de cette coupe, vous vivrez pour toujours. Non, c'est pas il n'y a pas ça. La vie chrétienne, d'une certaine façon, elle suit certains principes. Elle suit, elle est guidée, elle est même limitée par des principes. Si vous exercez, si nous exerçons ce que Dieu nous a donné, nous allons toucher Dieu. Voyez. Donc, voilà pourquoi l'exercice de l'esprit est tellement important. Parce que c'est l'organe que Dieu nous a donné. Et on ne peut jamais trop en parler. Parce que quand, dès que nous ne l'exerçons plus, nous commençons à le perdre. Nous commençons à, n'est-ce pas, à le minimiser. Et notre rapport avec le Seigneur commence à diminuer. Et nous allons rentrer dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Vivre notre vie selon le bien et du mal. Au lieu de vivre notre vie selon Dieu lui-même, selon la vie de Dieu. Ah. Donc, un voleur, par exemple, un voleur, quelqu'un qui vole, il est toujours méfiant, il se méfie toujours des autres voleurs. Il pense toujours que quelqu'un veut lui voler. Vous voyez? Parce qu'il vit sa vie dans ce domaine, n'est-ce pas? Du bien et du mal. Toute sa vie, parce que lui-même, il est immersé dans ça. Donc, il pense comme ça. Tout le monde va lui prendre quelque chose. Vous voyez? Tandis que celui qui vit dans l'esprit, il n'a pas ses soupçons. Hein? Voilà pourquoi, n'est-ce pas? On peut dire que même des croyants, n'est-ce pas, nous, si nous sommes purs pour le Seigneur, nous sommes même parfois assez un peu naïfs. Nous ne soupçonnons pas d'autres. Jusqu'à ce que nous trouvions que, ah, j'ai perdu quelque chose. N'est-ce pas? Non, nous avons confiance aux autres. N'est-ce pas? Parce que, quoi? Pourquoi? Parce que, par la miséricorde du Seigneur, si nous avons pu toucher le Seigneur dans notre esprit, nous avons confiance en lui, nous apprenons à avoir confiance aux hommes. N'est-ce pas? Vous voyez? Et quand quelqu'un nous fait du mal, ça nous choque, n'est-ce pas? Ça nous bouleverse. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Non, mais là où nous sommes, la manière dont nous vivons, nous nous attendrons à ce que les autres fassent la même chose envers nous ou ne fassent pas la même chose envers nous. Vous voyez? Donc, ça dépend. Dans quel domaine? Où est-ce que nous vivons? Est-ce que nous vivons dans l'esprit ou est-ce que nous vivons dans notre âme? Voyez. Et donc, voilà un peu une introduction. Si vous êtes ici pour la première fois ou vous vous demandez peut-être comment la manière dont nous venons à la parole, ça peut vous sembler un peu bizarre, un peu choquant, un peu intéressant peut-être. Voilà une explication, une petite introduction pour toucher à venir à la parole, pour toucher l'esprit qui est dans la parole. Nous allons lire un autre verset, Jean chapitre 6. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. Jean, chapitre 6, verset 63.
Jean, chapitre 6, verset 63.
Amen.
C'est l'esprit qui vivifie.
Oui.
La chair ne profite de rien.
Amen.
Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie.
Amen. Amen. Donc, c'est l'esprit qui vivifie. Ok. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les paroles que Jésus a dites à ses disciples, son esprit. N'est-ce pas? Pas seulement donné par l'esprit. Souvent, nous pensons que l'esprit, c'est comme un intermédiaire. C'est quelqu'un qui donne quelque chose. Mais ici, le Seigneur dit que, non, mes paroles sont esprit lui-même. Hein? Et vie, ça c'est la vie divine. Donc, c'est l'essence des paroles et l'esprit et vie. La constitution de la parole est esprit et vie. Ça veut dire que quand nous venons à la parole, aux paroles de Jésus, qui sont pas seulement les paroles qu'il a prononcées dans les évangiles, mais dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous devons exercer, utiliser notre esprit. Ok, donc nous allons essayer. Ok, nous allons essayer. Pour certains d'entre vous, vous êtes prêts, vous connaissez bien, mais je pense que c'est un bon moyen de toucher le Seigneur. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est un bon moment de commencer. C'est le moment de commencer, n'est-ce pas? Et de voir comment est-ce que nous pouvons toucher le Seigneur? Et comment est-ce que le Seigneur peut nous parler dans la parole? Ok, bon, revenons au premier verset que nous avons lu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ok, nous allons lire ce verset ensemble. Et ensuite, nous allons prier ce verset. Prier et lire. Mais prier et lire, c'est un peu, n'est-ce pas? Effectivement, c'est prier la parole, n'est-ce pas? Et donc, nous pouvons, n'est-ce pas? Tout le monde peut s'exercer. Peut-être que, bon, si vous n'avez pas fait ça pour la première fois, vous pouvez écouter, n'est-ce pas? Et si vous voulez participer, soyez libre. Mais qu'est-ce que c'est? Ce qui nous touche dans la parole, nous prions le Seigneur. Il y a quelque chose qui vous frappe. N'est-ce pas? Remettez ça en prière. Voilà. Ok, on va lire le verset ensemble. De Timothée. Oh, il y a des versions différentes. Ok, donc peut-être Darby. Ok, bon, tu peux lire peut-être Darby, oui. Et puis, tout le monde va. Nous allons prier selon la version que nous avons. Ok, oui, voilà. 16.
Toute écriture est inspirée de Dieu.
Amen.
Et utiles pour enseigner.
Amen.
Pour convaincre.
Amen.
Pour corriger.
Amen.
Pour instruire dans la justice.
Amen.
Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement réalisé.
Voilà. Oui. Amen. Ça va. Ah oui. Mais 16, je pense que 16 nous donnera suffisamment de matériel. Voilà. Ok. Amen. Ok. Toute écriture. Amen. 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 Seigneur, merci pour toute écriture.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Pas seulement une partie, pas seulement quelques écritures, mais toute écriture.
Amen.
Amen.
La Bible est toute écriture.
Amen.
La Bible referme toute l'écriture.
Amen.
Il n'y a pas d'autre écriture ailleurs.
Amen.
L'écriture, c'est la Bible.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
La parole dit toute écriture.
Amen.
Amen. Toute écriture de la Bible.
Amen.
Alléluia pour toute écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Sans exception.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Alléluia tout.
Amen.
Écriture.
Amen.
Écriture.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Oh, je n'ai pas le droit de choisir ce qui me convient. Oh, toute écriture.
Amen.
Amen.
Écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen. Inspiré de Dieu.
Amen.
Inspiré de Dieu. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Alléluia. Inspiré de Dieu.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Dieu. Amen.
Toute écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Amen.
Ça pas mon écriture.
Amen.
Mais toute écriture.
Amen.
Écriture de Dieu.
Amen.
Inspirée.
Amen.
L'écriture.
Amen.
L'écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Amen. Amen. Oh Dieu, tu as soufflé, tu as inspiré toute écriture. Amen.
Amen. Seigneur Jésus.
Amen.
Toutes les écritures.
Amen.
Ont été inspirées par toi.
Amen.
Donc Jésus.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Est inspirée. Or provient de toi.
Amen.
Donc toute écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Or à ta source en toi.
Amen. Amen.
Seigneur.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Tout ce qui a été dit.
Amen.
Depuis la création.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Tout est dit provient de toi.
Amen.
Tout a été dit par toi.
Amen.
Tout provient de toi.
Amen.
Par ton inspiration.
Amen.
Nous avons tout écriture.
Amen.
Seigneur Jésus.
Jésus. Amen.
Alléluia.
Amen.
Tout écriture.
Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Oh, Dieu a inspiré.
Amen.
A soufflé son écriture.
Amen.
Il a soufflé sa vie.
Amen.
Oh, merci Seigneur.
Amen. Amen. Amen.
Toute écriture.
Amen.
La Genèse à l'Apocalypse.
Amen.
Est inspiré de Dieu.
Amen.
Amen. Inspiré de Dieu.
Dieu.
Amen.
Amen. Oui. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas l'invention des hommes. Oh, mais c'est inspiré de Dieu.
Amen.
Jésus. La source de toute écriture.
Amen. Amen. Et utile.
Amen.
Amen.
Utile.
Amen. 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 Amen.
Alléluia.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Amen.
Utile.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Tout est utile.
Amen.
De la Genèse à l'Apocalypse.
Amen.
Tout est utile.
Amen. Toute écriture.
Amen.
Toute écriture.
Amen.
Inspirée de Dieu.
Amen.
Utile.
Amen.
Oui.
Écriture.
Amen.
Inspirée.
Amen.
De Dieu.
Amen.
Amen.
Utile.
Amen.
Écriture.
Amen.
Inspirée.
Amen.
Utile.
Amen.
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 Inspirée.
Amen.
Dieu.
Amen.
Utile.
Amen.
Inspirée.
Amen.
Dieu.
Amen.
Utile.
Amen.
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 Inspirée.
Amen.
Amen.
Amen. Oh, utile. Amen. Amen.
Tout est utile.
Amen.
J'en fais tout pour moi, Seigneur.
Amen.
Que tout est utile, soit utile.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen. Oh, Seigneur. Utile pour enseigner.
Amen.
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 Pour enseigner.
Amen.
Aux frères.
Amen.
Parle nous bien ce matin.
Amen.
Tout est utile.
Amen.
T'es inspiré de Dieu.
Amen.
Et utile pour enseigner.
Amen. Amen. Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Et utile pour enseigner.
Amen. Oh Seigneur. Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Et utile pour enseigner.
Amen. J'ai besoin d'être enseigné, Seigneur.
Amen.
Je ne sais rien. Je pense que je sais beaucoup de choses. Seigneur, enseigne-moi.
Amen.
Enseigne-moi
aussi.
Amen.
Enseigne-moi.
Amen. Amen. Amen.
Enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Tout est utile vient de toi.
Amen.
Tout est utile pour enseigner.
Amen.
Seigneur, enseigne-moi en ce jour.
Amen.
Moi aussi, Seigneur.
Amen.
Enseigne-moi.
Amen.
Enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Seigneur Jésus.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Utile.
Amen.
Pour m'enseigner.
Amen.
Enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Enseigne-moi à te voir.
Amen.
Enseigne-moi à te comprendre.
Amen.
Enseigne-moi à te toucher.
Amen.
Utile.
Amen.
Enseigner.
Amen.
Jésus.
Amen.
Compréhension, Seigneur.
Amen.
Ta parole, Seigneur.
Amen. Amen.
Ce dont je suis assis, Seigneur.
Amen.
Je comprends toi, Seigneur.
Amen.
Je comprends ton inspiration, Seigneur.
Amen.
Je comprends tout ton écriture, Seigneur.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Jésus.
Amen.
Amen.
Ici. Amen.
Enseignez la vérité.
Amen.
Jésus.
Amen.
Enseigne-nous.
Amen.
Enseigne-nous encore.
Amen.
Fais ton écriture.
Amen.
Fais de toi et utile.
Amen.
Jésus.
Amen.
Alléluia. Pour enseigner.
Amen.
Seigneur, j'ai besoin d'être enseigné.
Amen.
Oh, enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Oh, Seigneur Jésus.
Amen.
J'ai besoin de toi, Seigneur.
Amen.
Enseigne-moi à travers ton écriture.
Amen.
À travers ton souffle, Seigneur.
Amen.
Tu as soufflé, Seigneur.
Amen.
Je veux t'inspirer, Seigneur.
Amen.
Oh Jésus.
Oh Jésus.
Amen. Oh Alléluia.
Amen.
Oh, tout est utile et inspiré de Dieu.
Amen.
Et utile pour enseigner.
Amen.
Oh, utile pour nous enseigner.
Amen.
Oh Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus.
Amen.
Enseigne-nous.
Amen.
Amen.
Tu.
Amen.
Inspiré.
Amen.
Utile.
Amen.
Enseigné.
Amen.
Écriture.
Amen.
Inspiré.
Amen.
De Dieu.
Amen. Amen.
Enseigner.
Amen. Oh, utile pour enseigner.
Amen.
Utile pour convaincre.
Amen.
Amen.
Amen. Utile pour enseigner.
Amen.
Amen. Utile aussi pour convaincre.
Amen.
Amen. Enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Oh, tout est utile.
Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Est utile pour enseigner.
Amen.
Pour convaincre.
Amen.
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 Jésus.
Amen.
Convainc-moi, Seigneur.
Amen.
Oh, convainc-moi.
Amen.
C'est toi qui
qui convient de pécher, Seigneur.
Amen.
Couvre-moi de mon état, Seigneur.
Amen.
Donne-moi de me rendre compte, Seigneur.
Amen.
Convainc-moi, Seigneur.
Amen.
Par ton écriture.
Amen. Amen.
Pour m'enseigner.
Amen.
Mais pour me convaincre.
Amen.
Oh, me convaincre de me détourner de mes voies.
Amen.
Convaincre de me détourner de tout ce qui n'est pas toi.
Amen.
Utile.
Amen.
Enseigner. Amen. Utile.
Amen.
Convaincre.
Amen. Amen.
Amen. Toutes ces écritures.
Amen.
M'enseigne.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Me convainc.
Amen.
Seigneur me corrige.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Écriture.
Amen.
Écriture.
Amen.
Inspiré de Dieu.
Amen.
Enseigne-moi.
Amen.
Fais-moi.
Amen.
Fais-moi ici.
Amen. Amen.
Utile pour enseigner.
Amen.
Et Seigneur, enseigne-moi.
Amen.
Utile aussi pour réfuter.
Amen.
Seigneur,
oui.
Réfute tout ce qui est de moi.
Oui.
Éclaire
Amen.
Ma vie.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Que je puisse réfuter tout ce qui est de moi.
Oui.
Amen. Que je bâtis par ma force force.
Amen.
Que je prenne ce qui est de toi.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Oh Jésus.
Amen. Amen.
Oh Jésus,
Amen.
Merci encore de m'avoir.
Amen.
Parce que tu me dis que toute écriture
Amen.
Est inspirée de Dieu.
Amen.
Est utile pour m'enseigner.
Amen.
Pour me convaincre.
Amen. Amen.
Jésus.
Amen.
Dis toute écriture est inspirée de toi.
Amen.
Oh, utile pour m'enseigner.
Amen.
Oh, pour me convaincre.
Amen.
Et aussi pour me corriger.
Amen.
Oh Jésus.
Amen.
Oh, je suis approche de ma vie.
Amen.
Oh, je dis que je suis si difficile, Seigneur.
Amen. Oh,
oh
Seigneur.
Je suis avec Seigneur.
Amen.
Oh, viens me convaincre, Seigneur.
Amen.
Oh, enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Oh, éclaire-moi sur mon état.
Amen.
Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Amen.
Jésus.
Amen.
Oh, la Bible est ta parole.
Amen.
Il est inspiré de toi.
Amen.
Il ne veut plus venir la parole.
Amen.
Envoie de la connaissance.
Amen.
Oh, Seigneur Jésus.
Amen.
Je veux toucher à ta parole.
Amen.
Elle est utile.
Amen.
Oh, Seigneur, pour m'enseigner.
Amen.
Il est formé.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Je veux corriger.
Amen. Corriger. Amen.
Corrige-moi.
Amen. Corrige-moi.
Amen.
Jésus. Amen.
Toute écriture est inspirée de Dieu.
Amen.
Et à toi.
Amen.
Enseigne-moi.
Amen.
Enseigne-moi par ta parole.
Amen.
Jésus.
Amen. Amen.
Écriture est inspirée de Dieu.
Amen.
Et utile pour enseigner la vérité.
Amen.
Réfuter l'erreur.
Amen.
Corriger les fautes.
Amen. Amen. Mm. Amen.
Jésus.
Amen. Amen.
Tout est inspiré de toi, Seigneur.
Amen.
Seigneur, tu es le meilleur, Seigneur.
Amen.
C'est celui qui convainc.
Amen.
C'est celui qui corrige.
Amen.
Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus.
Seigneur, tu as toute la plénitude.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Seigneur, tu enseignes.
Amen.
Seigneur, tu convainc.
Amen.
Seigneur, tu corriges.
Amen.
Seigneur, tu instruis.
Amen.
Toute ta justice.
Amen. Oui.
Jésus.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Transformer, Seigneur.
Amen.
Oh, Seigneur.
Jésus.
Jésus.
Amen. Amen.
Jésus.
Amen.
Ce matin, je te remercie.
Amen.
Parce que tu me parles encore.
Amen.
Oh, tu as tout mis dans ta parole.
Amen.
Oh, Seigneur Jésus.
Amen.
Oh, pour me changer.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Oh, je peux venir à toi.
Amen.
Pour recevoir l'enseignement.
Amen.
Oh, Seigneur, qu'il me faut.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Oh, tu as déposé tous mes besoins.
Amen.
Seigneur, dans ta parole.
Amen.
Seigneur, toute réponse.
Amen.
Oh, Seigneur Jésus.
Amen.
Je me conduis vers toi.
Amen.
Seigneur, pour me faire croire.
Amen.
Pour m'enseigner.
Amen.
Seigneur, pour me ramener à toi.
Amen.
Seigneur, pour me convaincre.
Amen.
Seigneur, pour me corriger.
Amen.
Pour me détourner.
Amen.
Seigneur, tout est dans ta parole.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Je veux la voir ainsi.
Amen.
À partir de maintenant.
Amen.
Tournez vers ta parole.
Amen.
De se voir tout ce dont j'ai besoin.
Amen.
Amen. Jésus.
Amen.
Toute écriture est inspirée de Dieu.
Amen.
Utile pour enseigner.
Amen.
Oh, pour nous éloigner surtout de la connaissance.
Amen.
Mais surtout pour nous enseigner.
Amen.
Pour nous donner les enseignements nécessaires.
Amen.
La lumière nécessaire.
Oui.
Oui, la vie nécessaire.
Amen.
Pour nous convaincre.
Amen.
Oh, pour nous convaincre. pour qu'on puisse nous détourner.
Amen.
Oh, de tout ce qui n'est pas de lui.
Amen.
Oh Jésus.
Oh Jésus.
Viens nous corriger.
Amen.
Viens me corriger.
Amen. Amen.
Oh Jésus.
Amen.
Seigneur Jésus.
Amen.
Tout ce qui tu es inspiré de Dieu.
Amen.
Tout ce qui tu es inspiré de Dieu.
Amen.
Ici pour enseigner.
Amen.
Alléluia pour enseigner.
Amen.
Pour convaincre.
Amen.
Pour corriger.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen.
La justice.
Amen.
Oh Jésus.
Amen.
Tu es même
Amen.
Amen. Oh, tu es vivant, Seigneur.
Amen.
Tu es si réel, Seigneur.
Amen.
Car tu es ta parole, Seigneur.
Amen.
Tu es le souffle, Seigneur.
Amen.
Que nous pouvons inspirer, Seigneur.
Amen.
Par ton écriture, Seigneur.
Amen.
Oh, es utile, Seigneur.
Amen.
Enseigner, Seigneur.
Amen.
Oh Seigneur, enseigne-moi, Seigneur.
Amen.
Convainc-moi, Seigneur.
Amen.
Oh, convainc-moi de mon état, Seigneur.
Amen.
Donne-moi de me rendre compte de ce que je suis, Seigneur.
Amen.
Afin de m'abandonner à toi, Seigneur.
Amen.
Oh, pour te recevoir toi la vie, Seigneur.
Amen.
Tu dis pour instruire dans la justice.
Oui. Amen.
Alléluia pour l'instruction.
Amen.
Qui peut instruire si ce n'est toi, Seigneur?
Amen.
Je veux recevoir ton instruction.
Amen.
Ton instruction est selon la justice.
Amen.
Je veux recevoir ton instruction.
Amen.
Selon la justice.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Instruis dans la justice.
Amen.
Instruis dans la justice.
Amen.
Instruis-moi dans la justice.
Amen. Amen.
Oh, Seigneur.
Jésus. Oui. Seigneur Jésus.
Amen.
Instruis-moi dans la justice.
Amen.
Oh, Jésus.
Amen.
Convainc-moi, Seigneur.
Amen.
L'utilité de toute écriture.
Amen.
Oh, pour m'enseigner.
Amen.
Enseigner la vérité.
Amen.
Réfuter l'erreur.
Amen.
Corriger mes fautes.
Amen.
Et me former à une juste manière de vivre.
Amen. Amen. Oh, Seigneur.
Seigneur, merci pour ces 10 jours.
Amen.
10 jours de communion.
Amen.
Seigneur, tu nous as enseigné.
Amen.
Tu nous as convaincu.
Amen.
Même nous corriger.
Amen.
Et tu es en train de nous instruire encore.
Amen, Seigneur. Merci, Seigneur.
Amen.
Amen.
Merci pour l'instruction.
Amen.
Merci pour l'enseignement.
Amen.
Merci pour la conviction.
Ah. Amen.
Oh, merci aussi, surtout pour la correction.
Amen.
Oh, merci, Seigneur.
Amen.
Enseignement.
Amen.
Conviction.
Amen.
Correction.
Amen.
Instruction.
Amen.
Merci tout dans la justice.
Amen. Amen.
Amen. Oh, Seigneur.
Amen.
Oh, qui est juste comme toi, Seigneur.
Amen. Oh, oui.
Seul juste, Seigneur.
Amen.
Toi, tu peux nous donner ta justice.
Amen.
Oh, qui se trouve dans ta parole.
Amen.
Oh, nous prenons ta justice, Seigneur.
Amen.
Oh, Seigneur Jésus.
Amen. Amen.
Amen.
Ce matin, tu m'apprends.
Amen.
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 Seigneur, je veux être convaincu par ta parole.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Oh Seigneur.
Seigneur.
Toi.
Amen.
Notre vie est trop tordue.
Oh, amen.
Oh Seigneur,
Seigneur Jésus.
Jésus. Oh, n'aie pas du courage, Seigneur. Oh,
amen.
Venons à toi, Seigneur.
Amen.
Pour nous instruire.
Amen.
Pour nous corriger.
Amen.
Pour nous convaincre.
Amen.
Oh Jésus.
Amen.
Nous te disons merci.
Amen.
Merci pour ces 10 jours.
Amen.
Nous ces 10 jours encore, Seigneur.
Amen.
Nous a donné de voir ta parole.
Amen.
Tu nous as corrigé au travers de ta parole.
Amen.
Tu nous as donné d'être convaincus.
Amen.
Oh Seigneur Jésus.
Amen.
Nous te bénissons pour ton instruction.
Amen.
Ton instruction dans la justice.
Amen.
Nous te bénissons, Père.
Amen.
C'est la meilleure instruction.
Amen.
Nous avons été instruits à l'école.
Amen.
Au divan de ce monde.
Amen.
Nous venons encore à ta parole.
Amen.
Véritablement instruits.
Amen.
La justice.
Amen. Amen.
Toute écriture est inspirée de Dieu.
Amen.
Toute parole est inspirée de Dieu.
Amen.
Depuis jeudi, inspirée de Dieu.
Amen.
La parole a été inspirée de Dieu.
Amen.
Oh Jésus, merci.
Amen.
Parce que nous avons reçu ta parole.
Amen.
Et cette parole nous a été très utile.
Amen.
Et nous voulons qu'elle nous soit très utile.
Amen.
Nous sommes communions avec toi.
Amen.
Oh Jésus.
Amen.
Pour l'église à Abidjan, Seigneur.
Amen.
Et enseignement utile, Seigneur.
Amen.
Enseignement pour convaincre.
Amen.
Enseignement pour corriger.
Amen.
Enseignement pour instruire.
Amen.
Instruire dans ta justice.
Amen.
Ta justice est la bonne.
Amen.
Oh, elle est la véritable.
Amen.
Merci Seigneur pour ta justice.
Amen. 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 Voilà un peu, n'est-ce pas, un moyen de venir à la parole. C'est très nourrissant. Peut-être que vous pensez que c'est un peu, n'est-ce pas, ça peut être un peu bizarre, n'est-ce pas, intéressant. Mais si vous essayez, vous pouvez l'essayer seul, avec quelques autres frères et sœurs. Vous allez voir, ça peut vous nourrir. C'est-à-dire que la Bible devient vivante.
Amen.
La Bible devient quelque chose d'autre.
Amen.
N'est-ce pas? La Bible nous parle. Et donc, la Bible veut dire quelque chose à nous. N'est-ce pas? C'est pas seulement quelque chose que nous apprenons, que nous, à l'école, n'est-ce pas? Ce n'est pas un manuel, mais ça devient même vie, nourriture. Et aussi, ça devient lumière.
Amen.
N'est-ce pas? Pour nous exposer, pour nous voir, pour nous faire montrer notre condition. Voyez. Et aussi, ça nous donne aussi, ça devient moyen de nous, n'est-ce pas, de guérir notre condition, de toucher notre condition. Donc, en venant, par exemple, à cette écriture, ce verset-là, le Seigneur, peut-être que le Seigneur peut nous toucher, de nous repentir, d'aller, n'est-ce pas, auprès de notre mari, n'est-ce pas, ou de notre femme, de nous repentir, de lui dire je m'excuse, ou auprès de nos parents pour leur dire que je ne t'ai pas parlé, je t'ai parlé mal, je t'ai parlé, n'est-ce pas, je t'ai offensé, pardonne-moi. Vous voyez, là, mais souvent, sans la parole, nous ne sommes même pas conscients de ce que nous avons fait. Hein? La manière dont nous parlons avec nos parents, hein? Parfois, c'est... Nous ne savons pas comment nous leur parlons, n'est-ce pas? Par exemple, ton père te demande ou ta mère te demande de faire quelque chose, de faire tes devoirs. Non, pas encore. Je suis trop fatigué. Ah. Et c'est une réponse spontanée, n'est-ce pas? Mais en lisant la parole, peut-être que le Seigneur va vous toucher, va te toucher, n'est-ce pas? La manière dont tu as répondu à ta mère n'est pas bonne. Va auprès d'elle pour t'excuser. Dis-lui, n'est-ce pas, je m'excuse. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas seulement venir au rassemblement et crier et chanter et n'est-ce pas. Non, ça, c'est la vie chrétienne. D'aller auprès de tes parents, de ton mari, ta femme, pour t'excuser. Tu me dis, ça c'est pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire que nous ne sommes pas justes. Mais nous savons ça. Ah oui, nous ne sommes pas justes. Nous sommes pécheurs. Mais peut-être que c'est doctrinal. Nous sommes pécheurs. Oui, tout le monde est pécheur. Mais effectivement, pas moi. Oui, je suis pécheur. Mais je suis un bon pécheur. Ça veut dire que je me débrouille assez bien. Ah. Alors, je peux vivre ma vie comme ça, sans que le Seigneur me touche jamais. Alors, on est sauvé. Oui, nous sommes pécheurs. Jésus est mort pour moi. Mais il arrivera un moment où, dans la parole, le Seigneur va nous montrer qui nous sommes vraiment. Il n'y a rien en nous qui plaise à Dieu. Ça, mais pour ça, il faut la lumière.
de Dieu.
Autrement, nous ne serons jamais. Nous ne serons jamais d'accord. Il y a quand même quelque chose en moi qui plaît à Dieu. Oui, je suis assez bien. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi vivre ma vie chrétienne. Je vais à l'église, à la messe, une fois par semaine. Voilà. Ça, c'est la partie. Il y a quelque chose qui plaît à Dieu. Vous voyez ? Et peut-être que je donne le dîme de temps en temps. Bon, mais assez régulièrement. Peut-être pas tout le temps, mais quand même, c'est mieux que les autres, n'est-ce pas ? Je donne quelque chose à Dieu. Je vous dis, il y a des croyants qui sont satisfaits, ils vont faire ça toute leur vie. N'est-ce pas ? Toute leur vie. En croyant que ils donnent quelque chose à Dieu, mais jamais touchés par la lumière de Dieu. Ah. Jamais touchés même. Parce que même comment est-ce que Dieu va leur parler même, jamais touchés, même du fait d'aller à l'église le dimanche. Ils vont retenir ça. Ils vont s'accrocher à ça. Mais quand nous touchons le Seigneur, quand le Seigneur nous touche dans la parole, il peut arriver un moment où le Seigneur nous touchera. Toi, tu vas à l'église chaque dimanche. Hein? Est-ce que c'est pour toi-même ? Est-ce que c'est pour moi ? Ou est-ce que c'est pour toi ? Est-ce que c'est pour te satisfaire ? Satisfaire ta vanité, hein, pour te faire montrer, pour te faire voir que tu es bon chrétien, ou est-ce que c'est vraiment pour me louer? Vous voyez, et à ce moment-là, nous saurons un peu, peut-être, qui nous sommes. Mais sans, nous ne pourrons jamais avoir cette expérience sans la lumière du Seigneur. Sans la lumière du Seigneur, nous sommes bons chrétiens. Nous débrouillons assez bien par rapport aux autres, par rapport aux, n'est-ce pas, aux tueurs qui tuent les gens. Nous sommes beaucoup, beaucoup meilleurs. Alors, pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Oui, on n'a pas besoin de changer. Mais dès que Dieu, nous touchons Dieu, nous touchons l'Esprit dans la parole, peut-être que le Seigneur va nous illuminer. Vous voyez, donc nous ne savons jamais ce que le Seigneur va nous parler dans la parole. Il peut nous parler, il peut nous toucher notre rapport avec nos parents, avec nos maris, nos femmes, nos enfants, nos professeurs, à l'école, avec nos camarades de classe. Comment j'ai gueulé à mon camarade de classe. Et quand même je l'ai frappé, n'est-ce pas? Mais c'était lui qui l'a commencé. Alors moi j'ai réagi. C'est lui qui a commencé, n'est-ce pas? C'est pas ma faute. Moi j'étais là en train de faire mes devoirs, mon travail. Et puis c'est lui, n'est-ce pas, qui est venu m'agacer. Alors j'ai répondu. C'est lui qui est dans l'erreur. Mais il arrive un moment où, dans la lumière du Seigneur, le Seigneur va te dire, toi, tu es coupable, toi, tu n'es pas juste. Hein? Tu as besoin de moi. Seigneur, je ne suis pas juste. Je suis pécheur. Je suis vraiment, ma condition est exposée, illuminée. Vous voyez ? Il y aura même des moments où nous ne pourrons même faire face aux autres. C'est-à-dire, nous aurons envie de nous enfermer dans notre chambre pour être avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous expose et nous pardonne. Jusqu'à ce que nous touchions le Seigneur, n'est-ce pas ? tout notre être soit exposé devant lui. Vous voyez, ça c'est, je veux dire, quelqu'un qui contacte le Seigneur lui-même, sincèrement, en vérité et en esprit, sans aucune prétention, sans aucune réservation, hein, mais toutes les barrières sont enlevées. Seigneur, tout ce que tu veux me dire, dis-le, dis-le-moi. Seigneur, je ne veux que tu, n'est-ce pas, ne t'arrête pas. Seigneur, même quand c'est dur, Seigneur, continue à m'exposer. Donc, apprenez à venir à la parole comme ça. Hein, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez. Bon, c'est à vous de décider si vous voulez faire ça. C'est pas une obligation, n'est-ce pas? C'est une pratique, c'est un moyen de toucher le Seigneur. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc moi, personnellement, je n'impose jamais, n'est-ce pas, des pratiques. Mais je partage simplement ce qui m'a aidé, n'est-ce pas, à toucher le Seigneur, à venir à la parole de cette manière et de trouver le Seigneur dans la parole. Parce que souvent, quand je viens à la parole, je ne comprends pas ce que je lis. Et je le lis, ça entre, n'est-ce pas, je le lis et je l'oublie. Ça n'a pas un effet sur moi. Mais par ce moyen de prier, n'est-ce pas, de recevoir la parole par la prière, on peut contacter le Seigneur. Et quelque chose, ce que nous lisons, peut devenir réel. Quand nous venons à la Bible, essentiellement, c'est pour que le Seigneur nous parle. Personnellement, dans notre vie. Ce n'est pas pour acquérir des connaissances. Ce n'est pas pour connaître la Bible. Hein? Ce n'est pas pour mémoriser, bien qu'il y ait lieu de ça, et on a fait ça aussi. Ce n'est pas pour mémoriser, ce n'est pas pour réciter, ce n'est pas pour pouvoir dire aux autres que nous avons lu la Bible. Non. La Bible est là pour que le Seigneur puisse nous parler personnellement, puisse nous toucher. Donc chaque fois que vous venez à la Bible, rendez-vous compte que vous venez au Seigneur et le Seigneur veut vous parler. Mais vous devez exercer votre esprit pour qu'il puisse vous parler. Votre esprit doit être ouvert, sensible au Seigneur. Et c'est bien de prier le Seigneur. Seigneur, je viens à ta parole. Seigneur, je ne comprends pas ta parole. Mais Seigneur, pendant les 10 minutes que je lis ta parole, dis-moi quelque chose. Parle-moi. Même une chose. Dis-moi une chose. Et vous allez trouver que ça va vous changer. Ça va vous changer. Ce n'est pas combien vous lisez, mais dans ce que vous lisez, est-ce que le Seigneur vous a parlé? C'est pas combien vous avez lu. Ah, j'ai lu 10 chapitres. C'est bien. Parce que dans 10 chapitres, le Seigneur peut avoir plus d'opportunités de vous parler. Donc c'est bien. C'est bien. Lisez 10 chapitres. Hein? Vous qui sont ambitieux, n'est-ce pas? C'est bien. Mais dans les 10 chapitres, est-ce que le Seigneur vous a touché? Vous voyez, comment est-ce que votre vie a changé? Comment est-ce que votre façon de voir les choses a changé? Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir cet exercice. Est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous lisez la Bible, votre vie va changer? Non. Non. Il y aura des moments où vous lirez quelque chose, vous allez prier, et il n'y aura rien de bouleversant. Il n'y aura rien de... n'est-ce pas dramatique. Ne cherchez pas les choses dramatiques. Non. Non. Mais plutôt les petites choses. N'est-ce pas? Un mot ici, un mot là. Et même si le Seigneur ne vous dit rien, continuez. N'est-ce pas? Vous lisez, vous priez. Ah, je n'ai pas de repentance parce que... N'est-ce pas? Ça va, ça va. Au moins, vous avez joui du Seigneur lui-même. Vous avez été nourri. Et vous êtes différent, bien que vous ne le sachiez pas. Vous êtes différent. Vous devenez, vous sortez de ce temps avec le Seigneur, une personne un peu différente. Ah. Je vous dis, après avoir lu la Bible pendant 15 minutes et prié le Seigneur, vous aurez du mal à vous... quoi à vous mettre en colère contre vos parents. Quand vos parents vous disent, vous demandent de faire quelque chose, normalement vous direz oui, oui papa, oui maman, je le ferai. Hein? Parce que votre personne a été lavée, votre personne a été purifiée dans la parole, n'est-ce pas? Donc vos réactions sont un peu différentes. Peut-être que 2 heures plus tard, vous allez réagir différemment. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon, mais ne vous inquiétez pas. Ça, c'est, n'est-ce pas? Ça, c'est notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin, continuellement, nous avons besoin d'être renouvelés. La parole fonctionne, n'est-ce pas? Elle est toujours en train de nous renouveler. C'est comme la nourriture, comme les repas que nous prenons. Nous en prenons au moins, bon, n'est-ce pas, plusieurs pendant la journée. 1, 2, 3, 4, nous mangeons, n'est-ce pas, à des heures différentes. C'est pareil avec la vie chrétienne. La vie chrétienne a besoin d'être nourrie par l'exercice, par l'approvisionnement, n'est-ce pas, de la parole. Donc, c'est ça qui, c'est ce qui a, ce que Esdras a fait. Nous revenons à Esdras, parce que ça c'est le sujet, n'est-ce pas, le thème de notre conférence, la restauration. Comment est-ce que Dieu peut trouver des vases? Comment est-ce que Dieu peut trouver des vases qui lui plaisent? Ah. Esdras s'est déterminé, il a résolu de s'appliquer à l'étude de la loi. Ça veut dire à l'étude de la Bible. Donc, lisons des versets. Esdras. Si vous êtes ici pour la première fois, je voudrais situer un peu le contexte. Esdras chapitre 7, verset verset 10. Esdras chapitre 7, verset 10. Quelqu'un peut lire ce verset? Esdras chapitre 7, verset 10.
Esdras chapitre 7, le verset 10. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la faire et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances.
Amen. Donc, Esdras avait disposé son cœur ou appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Donc, vous voyez, il s'est donné à étudier et à mettre en pratique. Pas seulement à étudier, mais à mettre en pratique. Tout ce qu'il a étudié, il voulait le mettre en pratique. Et c'est ça, dans notre vie, quand nous lisons la Bible, quand nous étudions la Bible, nous cherchons à vivre ce que nous lisons. Je vous dis franchement, nous pouvons lire le verset « Marie, aimez vos femmes ». Mais même nous pouvons enseigner ça. Pendant les noces, n'est-ce pas? Les noces, il y a toujours ce verset est souvent lu, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous à vos maris. On lit, n'est-ce pas, ces versets. Souvent, on lit souvent ces versets et on enseigne beaucoup. Mais pratiquer, mettre en pratique, c'est tout à fait différent. Et comment mettre en pratique s'il s'agissait de sortir de la salle de mariage et de déterminer « Ma chérie, maintenant je vais t'aimer comme Christ m'a aimé. » Tous les maris le feraient, n'est-ce pas? Et ça marcherait. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que, pourquoi? Parce que on a lu ce verset et on a écouté ce verset maintes fois, mais on n'a jamais touché le Seigneur dans ce verset. Si le mari pouvait prier, lire ou exercer son esprit, n'est-ce pas, pour lire ce venir à ce verset, il se rendrait compte que le Seigneur l'illuminerait. Il n'est pas capable. Tout ce qui est en lui, n'est-ce pas, en sa personne, il veut dominer sa femme. Il veut régler sa femme. Il veut donner la loi à sa femme. Il veut dire à sa femme quoi faire. Il s'attend à ce que sa femme, n'est-ce pas, lui donne une vie qui lui convient le mieux. Voilà pourquoi la femme est là. Mais il va dire je t'aime. Parce qu'il ne va pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Non, parce qu'autrement sa femme n'a pas à l'épouser. Non, mais en pratique, sa conception de l'amour, c'est bien, c'est n'est-ce pas, c'est que ma femme fasse ça pour moi, que ma femme m'apporte ça, n'est-ce pas, et qu'elle réponde, qu'elle m'obéisse, et surtout qu'elle se soumette à moi, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez? Non, et donc, voilà. Donc, on aime, on peut facilement enseigner, lire, enseigner, n'est-ce pas, et même penser qu'on a compris et vivre une vie différente, tout en croyant que bah, voilà pourquoi les femmes sont là. Jusqu'au jour où Dieu touche le mari. Pour dire que, pour lui dire, toi, tu n'as jamais aimé ta femme. De la manière dont moi, je t'ai aimé. Ou j'ai aimé l'Église. Tout mari, quand ils arrivent à ce verset, à ce moment-là, vont savoir se rendre compte qu'ils n'ont jamais aimé, je ne dis pas qu'ils n'ont pas aimé leur femme, mais qu'ils n'ont jamais aimé leur femme comme. Parce que on néglige cette partie-là, comme Christ a aimé l'Église. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que mari, je n'ai pas aimé ma femme. Effectivement, n'est-ce pas, selon Dieu. Mais non, j'aime ma femme, chérie, je t'aime, chérie. Je t'ai donné des fleurs, je t'ai donné des... N'est-ce pas, j'ai fait ça pour toi. Et c'est vrai, n'est-ce pas. Tous les maris, n'est-ce pas, qui s'attendent à ce que leur femme fasse ça et ça et ça, eux aussi, ils ont fait des choses pour leur femme. Femme, il faut être honnête, n'est-ce pas, vous devez, n'est-ce pas. Il faut reconnaître, n'est-ce pas. Mais le jour où le mari se rend compte que, Seigneur, comme toi tu as aimé l'Église, tu m'as sacrifié, tu as sacrifié ta vie. Est-ce que moi j'ai sacrifié pour ma femme? Même le concept du sacrifice. Donc, un mari ne peut jamais montrer. Parce que s'il fait ça, ça veut dire qu'il se montre faible. Voilà. Et la femme va en profiter. Vous voyez? Et donc, notre vie reste la même. Continuons, n'est-ce pas, à vivre notre vie. Ce verset-là ne nous a jamais parlé. Le Seigneur ne nous a pas parlé. Mais si nous nous arrêtons, nous, ce que nous sommes, notre orgueil, notre masochisme, c'est ça, notre masochisme, n'est-ce pas, l'homme, je suis le chef, je suis la tête de la... tout ça, nous pouvons mettre ça à côté et nous ouvrir au Seigneur pendant quelques minutes devant ce verset. Nous serions étonnés de ce que le Seigneur peut nous dire. N'est-ce pas ? Il peut nous exposer comme jamais avant. Tu n'as jamais aimé ta femme comme moi je t'ai aimé. Et ça va nous amener à une repentance profonde. Ah. Même de reconnaître combien de fois ma femme s'est sacrifiée pour moi. Combien, vous voyez, toute notre personne sera délivrée dans un domaine totalement différent. Où nous allons même commencer à apprécier ce que notre femme a fait pour nous. Les moments, les fois qu'elle a sacrifié, les fois qu'elle s'est reniée, qu'elle a renié à ses désirs, à ses volontés pour me satisfaire, n'est-ce pas, pour pourvoir à mes besoins, à mes, n'est-ce pas, à tout ce que moi je voulais, dans la lumière du Seigneur. Ah. Nous serons changés. Même notre perception de notre femme sera changée. Et c'est pareil pour la femme aussi, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ça peut arriver? Le Seigneur doit me parler. Personnellement. Et ce n'est pas pendant les noces, quand le verset est lu. Ah. C'est pas forcément aisé. C'est quand je suis face à face avec le Seigneur, individuellement, dans les réunions, avec d'autres frères, mais je suis ouvert, je suis vidé de ce que je suis vidé de la perception que j'ai de moi-même, n'est-ce pas? Je suis prêt à tout laisser, abandonner, à laisser tomber tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai bâti en tant que homme, en tant que mari, en tant que celui qui approvisionne la famille, n'est-ce pas? Celui qui est protecteur de la famille, tout ce que j'ai bâti, tous ces choses qui peuvent être vraies, oui. Mais je suis prêt à les laisser tomber pour m'ouvrir au Seigneur, à la lumière du Seigneur. Pour dire, Seigneur, devant toi, tout est transparent. Hein? Je suis prêt à laisser tomber toutes mes défenses, toutes les murailles, n'est-ce pas? Tous les murs de Jéricho. Ah, qui s'élève, n'est-ce pas, comme elle. Je suis prêt à ce que tu les détruises, n'est-ce pas? Pour le mari, n'est-ce pas, approvisionner. Ça, c'est le premier, la première chose, on peut dire. Ah, et c'est vrai, oui. Mais on peut, en tant que mari, je peux, et j'ai fait ça, je peux profiter de ça comme un outil, comme une arme pour réfuter tout ce que ma femme a à me dire. Parce que je suis, n'est-ce pas, je suis l'approvisionneur, n'est-ce pas? Donc, tu n'as rien à dire. C'est moi qui. Et voilà. Mais, facile à faire ça. Ah, jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Pour me fermer la bouche, même. Et donc, étudier et mettre en pratique deux choses différentes. N'est-ce pas? L'une ne suit pas l'autre, forcément. Il y a un grand abîme entre les deux. Ah. Mais Esdras, il a étudié et, n'est-ce pas, mis en pratique la loi de l'Éternel. Ensuite, il a enseigné et a enseigné. Enseigner, c'est la troisième. Enseigner vient à la fin. Ok. La Bible n'est pas ici pour que nous puissions enseigner les autres. Non, 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 non. Ne servez jamais de la Bible pour enseigner les autres sans que le Seigneur ne nous a d'abord parlé. Sans que le Seigneur nous ait d'abord enseigné. Autrement, la Bible deviendra une arme pour tuer les autres. Voilà. Et ça arrive facilement. Les chrétiens qui tuent spirituellement, qui tuent les autres avec la parole. Pourquoi? Parce que la Bible, le Seigneur ne leur a jamais parlé dans la parole. Alors, ils peuvent même maltraiter, ils peuvent, n'est-ce pas, même excommunier ou chasser d'autres frères en se basant sur des versets. Parce que ces versets sont seulement doctrine, connaissance, hein, des choses mortes dans leur pour eux. Ils n'ont jamais touché le Seigneur dans la parole. S'ils ont touché le Seigneur dans la parole, ils ne traiteront pas leurs frères comme ça. Plutôt, ils aimeraient leurs frères. Hein? Ils ne les chasseraient pas. Même si le frère n'est pas d'accord avec lui, ou même s'il y a une différence d'avis, non, c'est mon frère. Hein? C'est, je ne peux pas le chasser. Je ne peux pas. Mais, donc, voilà un peu mon fardeau. Esdras, il est venu à Jérusalem, il est retourné à Jérusalem, et sa mission, son fardeau était de lui personnellement d'étudier, de mettre en pratique et puis d'enseigner. Amen. Donc nous allons lire d'autres versets. Néhémie. Chapitre 8. Verset 1 jusqu'au verset 8. Néhémie. Parce que Néhémie, bien que nous n'ayons pas vraiment abordé Néhémie pendant cette conférence, Néhémie et Esdras étaient contemporains. Néhémie a suivi Esdras à Jérusalem peut-être 15 ans, 10 à 15 ans après Esdras. Donc ils étaient plus ou moins contemporains et ils étaient ensemble à ce moment, n'est-ce pas? Néhémie qui avait le fardeau de rebâtir la ville, les murs de Jérusalem, et Esdras qui avait le fardeau d'enseigner, de constituer, c'est-à-dire de changer la constitution du peuple de Dieu. Vous voyez comment Dieu opère, n'est-ce pas? D'abord par Zorobabel et Josué qui ont, on peut dire, qui ont pris l'initiative de reconstruire le temple, la maison, c'est-à-dire la consécration, n'est-ce pas, l'autel, la consécration à Dieu, les fondements, n'est-ce pas, de Christ lui-même qui est le fondement de l'Église et la maison de Dieu. Ça, c'était Zorobabel et Josué. N'est-ce pas? La première chose qui doit être restaurée, c'est l'autel. Ensuite, la maison de Dieu, l'Église, pour satisfaire Dieu. Mais puis, Esdras revient avec quelque chose, il revient avec la parole pour dire que, oui, c'est bien d'avoir la maison de l'Église, n'est-ce pas, l'expression de Dieu, mais il faut le contenu, c'est-à-dire que il faut les expériences de Dieu. Comment est-ce que l'Église sera rebâtie? Comment est-ce que l'Église sera édifiée? C'est par l'expérience de Christ, et ça c'est dans la parole. La constitution, si on veut édifier l'Église, on a besoin d'une certaine constitution. Sans la constitution, tout ce qu'on fera sera quelque chose de l'homme. Quelque chose, n'est-ce pas, que l'homme fait. l'homme qui bâtit, l'homme qui construit, l'homme qui sert. Donc Esdras, il vient pour dire que vous devez revenir au début. Revenir à ce qui a déjà été écrit, ce que Dieu nous a donné. Et de l'étudier et d'être constitué par ça. Ça devient votre nourriture, ça devient votre breuvage, ça devient votre expérience. Comment est-ce que vous allez édifier l'Église? C'est pas Christ lui-même. Mais même ça, c'est un peu doctrinal. Comment? Hein? Il faut expérimenter. Il faut que ce Christ devienne réel. Il faut que ce Christ devienne vie, esprit et vie en vous. Il faut que vous touchiez ce Christ. Il faut que vous veniez face à face à ce Christ. Comment? Dans la parole. Vous avez besoin d'une constitution. Parce que vos goûts, vos désirs, vos... oui, vous voulez Dieu, vous voulez construire pour Dieu. Ah. Mais vous êtes toujours ce que vous êtes. Vous avez toujours votre personne, votre âme, votre vie d'âme. Mais votre vie d'âme a besoin d'être touchée, changée. Comment ? Par la parole. Par la parole écrite, n'est-ce pas ? Ce que Dieu vous a déjà donné. Alors, Esdras vient pour dire au peuple, ne cherchez pas Dieu ailleurs. Ne cherchez pas Dieu dans les songes. Ah, ne cherchez pas Dieu dans les miracles. N'allez pas ailleurs pour chercher Dieu. N'allez pas ailleurs à des maîtres guérisseurs. N'est-ce pas? N'allez pas à ces gens que vous pensez, vous croyez qu'ils vont vous aider. Ah, non. Dieu vous a déjà donné quelque chose déjà complet. Revenez à ça. Et touchez-le. Touchez Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est Esdras. Le retour à la parole écrite. Voyez, méfiez-nous des expériences. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies. Dieu, on ne peut pas limiter Dieu. Mais méfions-nous des expériences qui ne sont pas basées sur la Bible. N'est-ce pas? Un sentiment que le Seigneur nous donne, une certaine, ou un pressentiment, si n'est pas basé sur la Bible. Si on a ce sentiment, bon, avancez. C'est-à-dire, ne restez pas là. Ne demeurez pas là. Ok. Sinon, nous risquons de vivre notre vie selon nos sentiments. Et c'est à ce moment-là que Satan vient pour nous tromper. Même pour nous éloigner. Pour nous faire penser que c'est peut-être Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Donc, si, n'est-ce pas, par exemple, est-ce que Dieu m'a dit ça? Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu m'a... n'est-ce pas, aujourd'hui, j'ai décidé, je me demandais si je pouvais prendre... si je devais prendre le taxi ou l'autobus. Et je n'étais pas sûr, tout d'un coup, l'autobus est venu, taxi n'est pas venu, alors c'est Dieu qui m'a dirigé à prendre l'autobus. Bon, je ne dis pas que Dieu veut que vous preniez soit l'un, soit l'autre. Bon, mais ne vivez pas notre vie, ne vivez pas votre vie selon ça. Ça, ce n'est pas... Peu importe si vous prenez le taxi ou l'autobus. Je vous dis franchement, ça... N'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Que dans l'autobus ou que dans le taxi, le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à prêcher l'évangile à la personne à côté de vous. Ça, c'est sur la... N'est-ce pas? Ça, c'est basé sur la Bible. Alors, à ce moment-là, ne dites pas non plus, hein, est-ce que le Seigneur m'a dit de parler à cette personne ou non? Non, il vous a dit de parler. Parce que la Bible le dit. N'est-ce pas? Donc, tout sentiment de prêcher l'évangile à quelqu'un vient de Dieu. Vient de Dieu. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas emporté par des choses drôles. Voilà, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça le Seigneur? C'est pas le Seigneur? Ça. Plutôt, basez-vous sur la Bible, la parole, n'est-ce pas? Ah. Si je suis en train de venir à la réunion et mon véhicule tombe en panne, par exemple, n'est-ce pas, comme il y en a beaucoup, n'est-ce pas, on voit, n'est-ce pas, tant de pannes, n'est-ce pas, où il y a un embouteillage, ou plusieurs. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur que je vienne à la réunion? Ben, je suis tombé en panne, donc c'est sans doute pas la volonté du Seigneur. Non, ça, c'est pas... Oui, peut-être que vous ne pourrez pas, éventuellement, vous ne pourrez pas venir à la réunion parce que vous devez réparer la voiture. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas la volonté du Seigneur de ne pas venir à la réunion. Non. Dieu, nous sommes drôles, n'est-ce pas? Nous pensons drôlement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas centré sur la Bible. Nous ne sommes pas constitués. Notre constitution, je m'excuse, notre constitution n'est pas encore, nous ne sommes pas encore constitués de la parole de Dieu. Et pas seulement, j'entends par ça, pas seulement la connaissance doctrinale, mais l'expérience. Quand nous touchons le Seigneur dans la parole de la nécessité, même de l'obligation de prêcher l'évangile, nous serons différents. Nous ne pourrons jamais dire, oh, le Seigneur m'a dit de parler avec quelqu'un. Non, ça devient quelque chose d'automatique. C'est que quand, n'est-ce pas, j'ai même si je n'ai pas le sentiment, mais si j'ai le sentiment, ça doit être l'esprit qui me pousse à prêcher l'évangile. Vous voyez, il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non quand il s'agit de ces choses-là. Hein? Rendre visite à un frère ou à une sœur, c'est la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, nous avons besoin du Seigneur. Comment rendre visite? Quoi dire? Quelle est notre attitude? Tout ça, absolument. Nous avons besoin d'être dirigés par le Seigneur dans notre esprit. Mais ne pensez jamais que ces choses qui arrivent dans ma vie, c'est du Seigneur, c'est... Bon, revenons à la Bible. Et voilà pourquoi nous avons besoin de ça, ça, de le lire, de la lire, de l'étudier et de toucher le Seigneur. Ok, Esdras chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset... je m'excuse, Néhémie, chapitre 8, verset 1 au verset 8. Donc, chacun peut lire un verset. Ciao.
Tout le peuple s'assembla contre ce homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Il demandait à Esdras,
amen,
qui était interprète de la loi, d'apporter le livre.
Amen.
D'apporter le livre de la loi de Moïse.
Amen.
Et le sacrificateur Esdras apporta la voix dans l'assemblée, composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre.
Amen.
C'était le premier jour du septième mois.
Amen.
Esdras lut dans le livre des puits le matin jusqu'au milieu du jour.
Amen.
Sur la place qui est devant la porte des eaux.
Amen.
Amen.
Des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre.
Amen.
Le peuple fut attendu à la lettre de la loi.
Amen.
Esdras était debout sur une estrade en bois.
Amen.
Dressé pour la situation.
Amen.
Amen.
Il avait à sa droite Natifia.
Amen.
Shema, Anania, Uria.
Amen.
Il y a ta gauche, Isaïa, Israël, Malkia, Hashum, Hashibatana, Zachari et
Meshulam. Meshulam. Amen. Amen.
Verset 5.
Amen.
Et Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple.
Amen.
Parce qu'il était élevé au-dessus de tout le peuple.
Amen.
Et quand il ouvrit, tout le peuple se bénit.
Amen.
Amen.
Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu.
Amen.
Et tout le peuple se conduit en levant les mains. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel.
Amen.
Le visage contre terre.
Amen.
Amen.
Je veux parler chez Rafia.
Amen.
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 Amen. Amen.
Amen.
Oh,
Isha. Isha. Amen.
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 Et le peuple se tenait à sa parole. Et il lisait exactement dans le livre de la loi de Dieu.
Amen.
Amen.
Il donnait le sens et le faisait conforme lorsqu'il disait.
Amen.
Amen. Amen. Ok. Et aussi à chapitre 9, verset 1. Jusqu'au verset 4. Oui. Chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 4. Même ceux qui n'ont pas encore lu. Oh. Wow. Ok. Ok, oui, oui. Oui. Mm-hmm.
Ok, chapitre 9, verset 1.
Amen.
Le 80e jour, c'est quoi?
Amen.
Le 24e jour.
Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus des sacs et couverts de poussière sous la célébration d'un
fête.
Et la race d'Israël se séparait de tous les fils de
l'homme.
Ils se tiennent là et confessaient leur péché.
Amen.
Mm.
Seigneur, leur Dieu, pendant un temps de la journée.
Amen.
Et pendant un autre temps, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Oui, donc ça c'est un peu, ça décrit un peu le processus. Comment est-ce que Esdras a lu la parole? Quel était le processus? Et comment est-ce que le peuple a réagi, a répondu? Et intéressant, si vous lisez le chapitre 9, verset 3. 9, verset 3. On a lu la loi de l'Éternel pendant un quart de la journée. Ah, ça c'est donc c'est quoi, combien, au moins 3 heures, parce qu'une journée c'était 12 heures, n'est-ce pas, normalement de 6 heures du soir jusqu'aux 6 heures du matin, n'est-ce pas, donc 3 heures. Et ils ont confessé leur péché pendant un autre quart, ça veut dire 3 autres heures. Ça, me semble, n'est-ce pas, c'est l'effet de la parole. L'effet de la lecture de la parole. On peut même dire, ils ont prié, ils ont lu et ils ont prié. Parce que la confession, c'est quoi? C'est la prière. La repentance, c'était la prière, n'est-ce pas? Vous voyez, donc, ce que nous faisons, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose de nouveau. Ah, peut-être que notre manière de le faire, ça, n'est-ce pas, c'est différent. Mais le principe, c'est on lit la parole et on la prie. Ah. Comment vous le faites, c'est à vous, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... bon, mais lisez et priez la parole. Amen. Et autre chose, quand Esdras, dans le chapitre 8, quand il a lu la parole, le peuple a répondu Amen. Amen. N'est-ce pas? Donc, il y avait une réponse. Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire qu'on est d'accord. Donc, quand nous lisons la parole, souvent nous disons Amen. Et même quand nous prions, n'est-ce pas, nous disons Amen. Bon, est-ce qu'il faut dire Amen à la fin de la prière seulement ou pendant la prière? Ça dépend. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas une loi jamais imposée, n'est-ce pas? Mais si on a la liberté de dire Amen pendant la prière, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ça veut dire que il y a un écho en nous, n'est-ce pas, qui correspond à l'esprit Amen. Du frère ou de la sœur qui prie. Et ce écho, n'est-ce pas, retentit, n'est-ce pas, il y a un retentissement. La prière du frère, de la sœur, retentit en nous. Et donc, nous disons Amen. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment cette collaboration, n'est-ce pas? Des esprits, l'esprit des frères et des sœurs, nos esprits qui prient ou qui lisent la parole, nous qui écoutons, n'est-ce pas? Il y a quelque chose en nous qui dit Amen. Je suis d'accord. Dieu, ainsi soit-il. Voyez. Esdras a lu la parole. Les Lévites l'ont interprété, l'ont expliqué. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, faisons attention à la lecture de la parole. Même à haute voix. Et voilà quelque chose de pratique que je recommande. Hein. Si vous pouvez, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, essayez de lire la parole à haute voix. Pourquoi ? Autrement, parce que comme ça, vous n'allez pas vous endormir. Hein, je vous dis, bon, c'est... souvent, quand on lit la parole, on a tendance à s'endormir parce qu'on ne la comprend pas. Bon, mais voilà un moyen. Bon, je dis, c'est un peu drôle ça, ok, mais c'est pratique. Si vous lisez la parole à haute voix, vous n'allez pas vous endormir. Deuxièmement, vous allez articuler. Quand vous lisez à haute voix, hein, vous prononcez quelque chose, vous allez vous en souvenir mieux que si vous lisiez silencieusement. Ça m'a beaucoup aidé. Certains passages dans la Bible, quand, pas tout le temps, mais de temps en temps, je lirai la parole à haute voix. Parce que il se peut qu'à ce moment-là, le Seigneur puisse me parler. Ah. C'est comme si, c'est comme le Amen. Vous répondez au Seigneur quand vous lisez à haute voix ce que le Seigneur a soufflé, a écrit. Vous la lisez, vous le lisez à haute voix. Vous permettez au Seigneur de vous parler. Ah. Numéro 3, troisièmement, quand vous lisez à haute voix, vous pouvez vous mettre dans la situation des personnages. N'est-ce pas? Vous vous mettez dans l'histoire même. Ah. Donc, même quand vous lisez, n'est-ce pas, ce que quelqu'un a dit, ah, comment est-ce que vous allez le lire? Peut-être selon la manière dont lui, il a dit. Ça dépend. Mais comment est-ce que vous savez? Nous, on n'était pas là, n'est-ce pas? Mais nous pouvons même, n'est-ce pas, nous mettre dans la position des personnages. Oh, essayez ça. Surtout les jeunes. Essayez de lire la parole à haute voix. Essayez de lire, par exemple, les paraboles de Jésus, les histoires que Jésus raconte, lisez-les à haute voix. Et vous serez étonné comment le Seigneur peut vous parler. Ah. N'est-ce pas? Par exemple, l'histoire de l'enfant prodige. Ah. Il est parti, il a quitté son père. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Père, donne-moi ma part de l'héritage. Ok, mais comment est-ce qu'il a, quand vous lisez ça, vous lisez à haute voix, comment est-ce qu'il a dit ça? C'est à vous de d'interpréter, mais dépendant, oui, ça, père, donne-moi ma part, la part de mon héritage. Il a le droit. Vous lisez au droit. Il se peut que vous, vous vous rendiez compte. Vous êtes comme... combien de droits, à combien de droits est-ce que je m'attache dans ma vie chrétienne? Il semble que j'ai ce droit. J'ai ce droit-là, n'est-ce pas? J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit. Même, je dis aux autres, je demande aux autres frères, n'est-ce pas? Comme si j'avais le droit. Vous voyez, le Seigneur peut vous toucher sur ce mot. Père, donne-moi, n'est-ce pas, la part de... C'était son droit légal, n'est-ce pas? Et il a réclamé. Ah. Et puis vous lisez cette histoire, vous arrivez au moment où il se rend compte. Mon père a tout. Et moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais ici? Ah. Qu'est-ce que je vois? Je mange la nourriture des cochons. Oui. Et mon père a tout, tant de richesses. Je vais me lever. Je vais retourner. Mais comment est-ce qu'il a dit ça? Ah. Père, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme l'un de tes esclaves. Je suis sûr que son ton, son intonation était tout à fait différente d'au début, n'est-ce pas? Quand vous lisez à haute voix, vous pouvez saisir, toucher l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu dans les personnages. Comment ils ont dit les choses. Bon, bien sûr, vous l'interprétez. C'est vous qui les aimez. C'est ça, la parole de Dieu. Que chacun peut la lire, n'est-ce pas, selon la manière dont Dieu le touche. Et ça devient vie et esprit. Moi, je pourrais la lire d'une certaine manière. Vous pouvez la lire d'une autre manière, différente. Et ça devient vie et esprit à moi, et ça devient vie et esprit à vous. Vous voyez, la Bible est vivante. Elle est constante. Elle ne change pas. Les mots restent comme ils sont. N'est-ce pas? Nous ne changeons rien. Nous n'ajoutons rien. Nous n'enlevons rien. Mais la façon dont nous venons à la Bible va être différente pour chacun d'entre nous. Et Dieu va nous parler différemment. N'est-ce pas? Mais c'est la même Bible. C'est la même parole. Ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. Amen. Ah, Dieu permet, n'est-ce pas, il donne sa parole aux hommes, à tout homme, de l'apprendre, de l'ouvrir et de le trouver. La Bible est accessible. Ce n'est pas comme d'autres livres religieux où seulement un certain peuple, un peuple peut le lire, peut le comprendre, écrit dans un certain langage qu'il faut apprendre. Non, la Bible, elle est pour tout le monde. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. On peut venir à la Bible telle qu'elle est pour trouver le Seigneur. Voyez. Donc voilà la puissance de la parole. Ah. Donc essayez de la lire à haute voix. Ah. Essayez de pratiquer, chercher et trouver des moyens vous-même qui sont particuliers à vous de lire la parole. N'est-ce pas? Là, c'est un peu pratique. Est-ce que vous avez jamais, comment dire, lu rapidement, à toute vitesse, la parole? Oui, speed, oui. Autre moyen. N'est-ce pas? Vous lisez la parole, comme ça vous pouvez même compléter le Nouveau Testament dans 30 jours. Vous lisez, n'est-ce pas, à toute vitesse. C'est même pas pour... Vous n'essayez pas de vous souvenir de... Mais c'est juste pour lire. Lire. N'est-ce pas? C'est un moyen. N'est-ce pas? Lisez la Bible en un an. N'est-ce pas? Là, 3 chapitres de l'Ancien Testament, peut-être, et 1 chapitre du Nouveau. Et vous allez réussir... Bon, vous allez parvenir à terminer la lecture de la Bible en un an. De la Genèse à l'Apocalypse. Ce sont d'autres moyens, n'est-ce pas, de connaître la Bible. Mais n'oubliez jamais, et ça c'est le fardeau, n'oubliez dans tout ça, n'oubliez jamais que vous devez toucher le Seigneur. Amen. Dans la parole, que le Seigneur doit nous parler personnellement. C'est ça qui nous change. Venons à la parole. Venons à la parole comme Esdras. Et apprenons à la toucher, à nous familiariser avec elle, à la connaître, mais surtout à ce que le Seigneur nous parle. Parce que c'est ça ce qui va aider les autres, ce que nous pouvons enseigner aux autres, c'est seulement ce que le Seigneur nous a parlé. Tout le reste sera connaissance et ne va pas forcément aider les autres. Mais ce qui est devenu vie et esprit en nous va devenir vie et esprit aux autres. Donc, quand vous venez au Seigneur, vous venez à la Bible et que vous touchez le Seigneur, demeurez. Ne passez pas trop vite à quelque chose d'autre. Demeurez dans ce que le Seigneur vous parle. Tardez-vous, comme un cantique que nous chantons. Seigneur, je tarderai. N'est-ce pas? Oui, encore. Je ne veux pas. Oui. Je ne veux pas te quitter si facilement. Demeurez dans ce que le Seigneur vous a touché. Parce que ça deviendra éventuellement votre nourriture et aussi ça va devenir votre constitution. C'est souvent après que le Seigneur nous parle. C'est une épreuve. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que nous le laissons partir ou est-ce que nous demeurons? Est-ce que nous restons là jusqu'à ce que cette parole du Seigneur devienne un peu notre constitution? Même qu'elle puisse devenir éventuellement vérité en nous. Une vérité. Et éventuellement, mais je ne vais pas aborder ça, éventuellement, ça devienne même une révélation. Vous voyez, il y a quelque chose que le Seigneur me touche. Ça, c'est l'inspiration. Je suis inspiré. Il y a quelque chose qui me touche, n'est-ce pas? Je me repens. Mais est-ce que ça peut devenir vérité? C'est-à-dire que, est-ce que ça devient quelque chose qui commence à contrôler ma vie, à régler ma vie? Ce n'est pas seulement que je me repens et c'est fini. Mais maintenant, je commence à vivre ma vie selon cela. N'est-ce pas? Ça, c'est la vérité. Ça devient une vérité. Et j'obéis. Ça produit une obéissance à la vérité. Donc Jean, dans son épître, il parle de ça, d'obéir à la vérité. Pas seulement de connaître la vérité, mais d'obéir à la vérité. De se soumettre, de pratiquer, oui, de pratiquer la vérité. Voilà, explorez, découvrez vous-même des moyens, n'est-ce pas? Et le Seigneur va vous diriger. C'est... Mais, pour les jeunes, surtout, hein, je vous recommande... Tout ça, tout ce que je dis, peut-être que c'est bien, n'est-ce pas? Mais demain, hein, ça ne va pas être aussi attirant, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura d'autres choses, autres que la Bible, qui vont, n'est-ce pas? Être en compétition. Alors, planifiez votre journée, c'est-à-dire écrivez, n'est-ce pas? Bon, vous allez lire la Bible à telle ou telle heure, avoir un temps avec le Seigneur, un temps personnel, ou, à telle ou telle heure. Et vous allez commencer avec quel livre, n'est-ce pas? Où? Bon, mais planifiez, faites quelque chose pour assurer que vous allez commencer à le faire. Ah. Sinon, ça reste une bonne théorie. Quelque chose de bon, quelque chose de, n'est-ce pas, mais pas, mais un bon désir, mais pas forcément quelque chose que je vais faire. Comment est-ce que on peut faire ce qu'on veut faire? On le fait. On commence à le faire. Ah. Voilà. On peut. Il n'y a pas de formule. Ne dis pas, ah, le Seigneur va me permettre de le faire, parce que ça veut dire que vous ne le ferez pas. Si vous attendez que le Seigneur vous dirige à le faire ou vous touche à le faire, peut-être que vous allez attendre assez longtemps. Non. C'est maintenant. N'est-ce pas? Commencez maintenant. Pas demain. Mais aujourd'hui même, vous faites le n'est-ce pas, vous, commencez à lire la Bible. Commencez à prier ce que vous lisez un peu. Et chaque jour, vous consacrez quelques minutes à faire ça. Vous verrez la différence. À une certaine heure, telle ou telle heure, je vais faire ça. Écrivez. Hein. Et quand vous ne le ferez pas, au moins vous aurez. Parce que vous ne le ferez pas. Je sais. tous les jours. Bon, et moi, c'est pareil. Mais au moins, vous saurez, n'est-ce pas, que Ok, j'ai raté un jour, deux jours, trois jours, ça va, ça va. Le quatrième jour, je reviens, je recommence, n'est-ce pas ? Je continue. Mais comme ça, vous pouvez vérifier. Vous avez une vérification, n'est-ce pas ? Que trois ou quatre jours se sont passés sans que vous ayez vu. Pas pour vous condamner, n'est-ce pas ? Mais pour vous renouveler, inspirer. Seigneur, merci pour une nouvelle journée aujourd'hui. Je recommence. Je continue. Je prends la Bible et je commence à la lire. Ça, c'est notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, des personnes parfaites. Non, ça, ce sont les anges. Les anges sont parfaits. Mais même eux, un tiers n'était pas. Ils ne sont pas parfaits non plus. Ils risquent de tomber. Donc, personne n'est parfait. Mais si nous voulons, si nous sommes sérieux avec le Seigneur, nous voulons le suivre, nous allons exercer notre esprit. Ça veut dire faire le premier pas pour dire, Seigneur, me voilà. Je suis faible, je ne suis pas, je ne sais pas beaucoup, mais je te donne, n'est-ce pas, une partie de ma journée pour lire ta parole, pour prier un peu la parole. Ça, c'est un bon début. Vous allez voir que 15 minutes de votre journée ne seront pas gaspillées. C'est quelque chose. Au moins 15 minutes ne seront passées, n'est-ce pas, dans quelque chose d'éternité, d'éternel, n'est-ce pas, quelque chose d'éternel. Voilà un peu, je ne sais pas si ce n'est pas une conclusion, parce que mais c'est un fardeau. Et c'est même pas que j'avais ce fardeau avant de venir, mais au fur et à mesure que j'ai passé du temps avec vous, c'est souvent comme ça. Voilà, j'avais un peu, n'est-ce pas, j'ai eu certains fardeaux, n'est-ce pas, pour et j'ai partagé certaines choses que moi j'ai expérimentées. Où moi j'ai échoué, je suis tombé plusieurs fois et je me suis relevé pour continuer, n'est-ce pas? Voilà. Combien de fois j'ai commencé à lire la Genèse, la Bible, j'ai lu la Genèse et puis voilà. J'ai passé à d'autres choses, ou j'ai lu d'autres, j'ai dû préparer, n'est-ce pas, d'autres passages de la Bible. Ah, mais je n'ai pas été fidèle à ce que, n'est-ce pas, à ce que j'ai commencé à faire, qui est de lire la Bible du début jusqu'à la fin. Et régulièrement. Donc, j'ai laissé tomber, je recommençais, j'ai laissé tomber, je recommençais. Mais, Seigneur, le Seigneur a besoin de nous toucher, encore et encore. Nous voilà, n'est-ce pas, encore une fois, une nouvelle journée, n'est-ce pas, pour recommencer. S'il y a des des témoignages ou des questions, je pense que concernant le, l'horaire, on peut, oui. Oui. Si faire le neuf. Donc, est-ce que ça va si on, par exemple, si on finit, il est maintenant midi 20, on peut se terminer à 13h ou même 13h moins le quart. Et puis, on s'arrête, on déjeune et puis c'est comme ça, vous pouvez. Oui, comme ça, ok. Oui, merci, oui. Mm-hmm.
Merci Seigneur.
Amen. Amen.
Merci Seigneur.
Amen. Amen.
Je vous avais donné que l'église par l'église, les témoignages, les questions, les incompréhensions.
Je ne sais pas si tout le monde a compris un peu ce qu'on a en train de voir.